Alors, nous voilà de retour au Stade Saputo pour les amateurs de sport week-end. Jérémy Filosan en compagnie maintenant de Vincent Destouches. Comment ça va, Vincent?
Ça va bien, toi, Jérémy?
Oui, très prêt pour cette finale France-Croatie demain. Écoute, je sais exactement comment tu te sens parce
oui,
que l'Italie aussi s'est rendue à plusieurs finales de la Coupe du Monde et je sais exactement ce que je ressentais la veille des matchs. Mais écoute, surprise, hein, la Croatie quand même, il faut le mentionner.
Quand même, quand même. C'est vrai que ça n'arrive pas souvent en Coupe du Monde et j'entends beaucoup de gens qui, bon, sont d'un côté un petit peu déçus parce qu'ils auraient voulu une grande affiche, comme on en a l'habitude.
France-Angleterre.
Mais justement, on a l'habitude que ce soit plus ou moins les mêmes équipes qui se retrouvent, un petit groupe de 8 ou 9 nations. Là, il y a de la fraîcheur. Et il y a aussi un autre groupe de gens qui disent que c'est la meilleure Coupe du Monde depuis longtemps parce que justement, il y a eu plein de surprises. De voir l'Espagne battue par la Russie au pénalty, c'est de l'émotion. Il y a un côté tragédie à tout ça. L'Allemagne sortie au premier tour, le Brésil qui a des difficultés. C'est vrai qu'il s'est passé une tonne de choses dans cette Coupe du Monde. Alors, c'est vrai que ça donne peut-être pas la finale quand tu regardes juste à plat France-Croatie, la plus excitante de tous les temps. On va se le dire.
Ouais.
En même temps, il y a un affrontement. Quand tu regardes en dehors des nations les joueurs, Luka Modric d'un côté, Kylian Mbappé de l'autre, deux des meilleurs joueurs en Europe et peut-être dans le monde actuellement, il y a quand même de belles choses qu'on va voir sur le terrain demain.
Sauf que maintenant, on regarde ça puis on se dit la Croatie, ils ont joué 3 fois 120 minutes
et
consécutivement.
Voilà.
Ils ont des joueurs qui sont fatigués, blessés et tout cela, tandis qu'on est frais et dispo du côté des Français, en tout cas quand, à première vue. Là.
Exactement. Mais tu sais, pour cette même raison, je trouve que la Croatie était une meilleure équipe, mais je pensais que l'Angleterre allait passer à travers. Parce que la Croatie avait fait 120 minutes contre la Russie, avait fait 120 minutes contre le Danemark, et il y avait eu très peu de temps de récupération entre les quarts et les demi-finales. Je pensais qu'ils n'y arriveraient pas. Et d'ailleurs, tu regardes les 45 premières minutes du match, les Anglais auraient dû le tuer ce
absolument,
match-là.
Absolument.
Ils étaient à la rue, les Croates. Il y avait 1-0 à la mi-temps, ça aurait dû être 2. Et je trouve d'ailleurs, ça, c'est l'erreur des Anglais. Ils l'ont échappé, ce match-là. À un moment donné, je trouve que, à mon avis, dans leur tête, ils pensaient qu'ils l'avaient gagné. Ils sont tombés un peu dans une gestion de match, et ils ont laissé les Croates revenir. Alors, faut quand même donner du crédit aux Croates, qu'on retrouvait les ressources pour revenir, qu'on pratiquait du magnifique soccer pour terminer ce match-là. Et c'est ça qui m'inquiète. C'est tu sais, une finale, t'arrives, t'es galvanisé. Tu peux pas la jouer sur les rotules. Alors, est-ce qu'ils vont trouver de l'adrénaline, une source d'adrénaline en eux? Est-ce que parce que c'est la finale de Coupe du Monde et t'en joues pas 2 ou 3 à vie, bah, ils vont être à 100% à plein régime?
Parce que
c'est
ça
possible.
Ça va prendre un peu de chance pour que les Croates gagnent ce match-là. Peut-être un carton rouge, un penalty. En tout cas, on verra. On s'en reparlera demain si tu le veux bien. Parlons un petit peu de l'impact de Montréal qui, bon, a trébuché à New York, mais bon, fallait s'y attendre un peu, même si leurs deux meilleurs marqueurs n'étaient pas dans l'alignement. L'impact s'incline 3-0. Écoutez, l'impact a eu l'air d'une équipe quand même, il faut le mentionner, un peu perdue sur ce mini-terrain du Yankee Stadium. Et ils ne sont pas les seuls. Je veux dire, il y a d'autres équipes qui sont passées par là et qui ont vécu le même sort. C'est pas idéal. Le terrain est petit, tout cela, on est dans un terrain de baseball. Est-ce que toi, tu es capable de prendre ce match-là, déchirer le papier, mettre ça aux poubelles et dire « Les gars, on se concentre sur ce qu'on a fait de bien les matchs précédents et on s'en va de l'avant.
Oh » ouais, je suis complètement sur la même longueur d'onde que toi là-dessus, sachant en plus que bon, on n'a pas encore l'alignement de l'impact ce soir, mais je m'attends à ce qu'on revienne avec l'équipe A. Clairement, à New York, c'était l'équipe B. Il y avait 5 joueurs en manque de temps de jeu qui étaient sur le 11 partant. Et quand tu dis en manque de temps de jeu, tu dis aussi en manque de rythme et en manque de repères. Qu'est-ce que ça fait une équipe qui n'a pas de cohésion? Non seulement bah, les individualités, bah, elles vont pas briller, et ça c'est plate pour ceux qui voulaient justement briller, ils n'ont pas pu, et ça fait surtout en sorte que face à une équipe qui maîtrise New York City, ce contexte, ce stade, ces très petites limites de stade, tout devient un peu plus complexe. Alors même si l'Impact a voulu défendre, avant tout, ils ont été incapables de le faire. New York était supérieur dans tous les domaines. La défaite, elle est logique, mais ça ne remet en rien le travail qui a été effectué lors des dernières semaines. La seule chose que ça me montre à moi, c'est que je pense que Rémy Garde, il n'a pas tout à fait tort quand il dit que l'effectif manque de qualité. Tu as un 11 partant qui on a vu à plusieurs reprises dernièrement, et ce 11 partant, il est capable de t'amener des résultats, des victoires, d'accord. Mais dès que tu sors un petit peu de ce 11 partant, tu peux rentrer un joueur, pas de problème. T'as vu, Chamichaume, il rentre, l'Impact gagne, il n'y a pas de souci. Jackson, il rentre, l'Impact peut quand même gagner. Mais s'il y en a un ou deux qui baissent leur niveau, ou si t'en rentres deux nouveaux dans cette équipe-là, tout de suite, c'est plus la même équipe.
Ouais.
Donc, on a quand même une marge de manœuvre qui est très étroite.
Est-ce que ce soir, tu donnerais un troisième départ consécutif à Rod Fanny? étant donné que là, il a joué beaucoup de minutes récemment. Rudy Camacho, normalement, devrait être là, devrait être partant ce soir. Est-ce que tu lui donnes un match de repos et tu lui demandes de revenir plus fort mercredi contre Vancouver? Comment tu vois ça les prochains jours et spécifiquement cette situation-là de la défensive centrale?
Je me pose la question, c'est vrai, pour Rod Fanny. Et la question se pose aussi pour Samuel Piette, qui joue tous les matchs, il est sorti à quoi 7 minutes de la fin du match mercredi, ouais. Quelque chose comme, bref, c'est comme s'il avait joué l'intégralité. Saphir Tyders, pareil. Nacho Piatti a terminé le match. Alors ça, c'est un pari, mais oui, je les renvoie. Rod Fanny, comme Saphir Tyders, c'est quand même des joueurs qui ont joué en Europe la majeure partie de leur carrière, dans des clubs qui jouent l'Europe. Ils ont fait la préparation. Rod Fanny, c'était en France avec l'Olympique de Marseille. Saphir Tyders, c'était en Italie avec Bologne. Il joue, il se programme pour jouer tous les trois jours. Il y a la Coupe d'Italie, les différentes Coupes d'Europe. Alors, je pense qu'ils en sont capables. Après, il faut voir avec eux, mais je le ferai.
C'est
pas
un gars qui court sur le terrain pour rien. Il sait ménager ses énergies à cause de son expérience. Donc ça, à ce niveau-là, ça donne un bon coup de pouce. Maintenant, on a le championnat canadien qui s'en vient dans quelques jours seulement, si on met de côté le match de ce soir là, contre les Earthquakes de San Jose. Cette année, on le joue un peu plus tard, étant donné la Coupe du Monde qui avait lieu au mois de juin. Mais écoute, si on repense à l'année dernière, le fait saillant de la saison, c'est quoi? C'est la finale Montréal-Toronto du championnat canadien. Tu te souviens, le fameux carton rouge à Patrice Bernier dans les derniers instants.
C'est vrai.
Toronto marque dans les minutes ajoutées, si je ne m'abuse, pour voler ce championnat. Mais de plus en plus, le championnat canadien devient intéressant, pertinent et tout cela. Je pense que si on avait à poser la question à l'Impact il y a un mois, on aurait dit, ben oui, on va essayer de le gagner, le championnat canadien. Mais là, étant donné que l'Impact revient dans cette course aux séries éliminatoires dans la MLS, on n'a pas le choix, encore une fois, que de jouer sur deux tableaux. Est-ce que l'Impact va tenter de mettre ses œufs un peu plus dans un panier que l'autre? Ou est-ce qu'on y va match après match et on se dit qui sont mes meilleurs, qui sont les plus frais dispo, qui peut m'aider aujourd'hui? Et allez, on y va, on tente de gagner.
Écoute, je pense que je te comprends, et le revers de la médaille à la bonne série de l'Impact dernièrement, c'est que maintenant on y croit aux séries. On est sixième, là. À l'heure où on se parle, l'Impact est sixième.
Exact.
Alors, elle est où la priorité? Il y a quelques années, l'Impact disait, au début d'année, à la soirée des membres, l'une des priorités de la saison, c'est de gagner le championnat canadien. C'est même de faire la Ligue des champions. Il y a le prestige qui va avec, et c'est devenu quelque chose de très gros. Non seulement parce que l'Impact a fait la finale en 2015, mais parce que Toronto l'a fait cette année également. Et on a vu toutes les répercussions que ça peut avoir sur le foot, sur la renommée, sur les joueurs qui peuvent venir, et sur la culture, parce que vraiment, ça a été toute une épopée, ça a été fantastique.
Parce qu'on dirait que la Ligue des champions, tout d'un coup, tout le monde embarque.
Et voilà.
La MLS, c'est les fans de soccer viennent, mais quand c'est la Ligue des champions, on se déplace au stade olympique, et là, tout d'un coup, on se dit « Oh, ça devient gros, ça devient important ». Tout le monde veut
y
aller.
Ben oui, c'est un événement. On vit pour les événements. La Ligue des Champions, c'en est un perpétuel. C'est à chaque fois des matchs couperets face à des équipes qui sont, on dit, qui sont plus fortes. Donc, c'est du spectacle. Reste que, là, en ce moment, je pense que l'Impact est tourné vers les séries éliminatoires en premier. Et que ce championnat canadien, on va le jouer quand on aura la perspective de pouvoir le gagner, à mon avis. Alors, je ne dis pas qu'on va balancer le match mercredi, mais je m'attends à ce qu'il y ait des jeunes qui soient inclus. Et quand je parle des jeunes, je parle de jeunes. Parce qu'il y a des joueurs, des U19 de l'Impact de Montréal qui s'entraînent depuis longtemps là, avec l'équipe première, mais qui ne peuvent pas jouer parce qu'ils n'ont pas de contrat MLS. Là, c'est une opportunité pour eux. Est-ce que Rémi Garde peut être tenté? Parce qu'il faut faire souffler. Parce qu'il y a un match du côté de Portland la semaine prochaine, qu'il y a Atlanta la semaine d'après. Ces points-là, ils valent cher. On ne peut pas les balancer.
Non.
Donc là, il y a un équilibre difficile et je me demande si on ne va pas lancer les dés et voir ce que ça donne.
Ben, écoute, c'est sûr que si on avait des Louis Bélan-Goyette disponibles,
voilà,
David Chouanière, on ne se poserait pas la question. Mais là, malheureusement, c'est des gars qui sont blessés. Je ne sais pas si Kyle Fisher sera disponible. On l'espère.
Oui, je pense que oui.
À ce moment-là, on pourrait lui donner un départ, peut-être deux. On verra bien là, comment ça va se passer. Maintenant, le mercato est officiellement ouvert. Moi, je suis surpris de voir que l'Impact n'avait pas déjà quelques transactions MLS complétés et qu'on allait nous les annoncer le 10. Ça n'a pas été le cas. As-tu été surpris par cela?
Non, je n'ai pas été surpris parce que si tu regardes les noms qui sont sortis au chapitre des rumeurs lors des dernières semaines, voire les derniers mois, c'était quoi? C'était Thomas Monconduit, un Français qui était à Amiens. C'est Jimmy Briand, un Français qui est à Guingamp. Ça, ce n'est pas des réseaux que normalement l'Impact explore. On est rarement allé chercher des joueurs dans la Ligue 1 française. Donc là, clairement, on exploite les réseaux de Rémy Garde. Ce sont des internationaux. Et ce qu'on a pu voir lors des premiers mois de ce personnel d'entraîneur, c'est qu'il y a une adaptation à la MLS. C'est pas quelque chose qui est inné en eux, ils découvrent les équipes.
Exact.
Il y a des équipes contre lesquelles ils n'ont même pas encore joué.
Exact.
Ils connaissent pas vraiment tous les joueurs. Donc je pense que Rémy Garde, il doit commencer à être au stade où il a pris en note quelques noms de MLS. Tiens, lui, il est intéressant,
ouais.
Mais il n'a pas la certitude de dire c'est celui-là qu'il me faut pour changer mon équipe. Alors qu'un gars comme Jimmy Briand, par exemple, il le connaît par cœur.
Ouais.
Et il sait qu'il a besoin en attaque. Et il sait que c'est un leader, c'est un bon joueur, c'est un marqueur. Alors j'ai pas été surpris parce que pour moi, l'Impact va chercher des joueurs. Écoute, d'une certaine stature, qui seront des internationaux. Et là, il y a un blocage. Il y a un blocage
que,
à cause des places internationales.
Ben, dans les transactions MLS dont je parlais plus peut-être de laisser partir certains joueurs et non peut-être d'aller chercher des joueurs. Mais en tout cas,
il y a la Coupe du Monde aussi qui joue, qui fait qu'il y a beaucoup de clubs qui sont en mode attente au niveau de leur transfert.
Dernière question, si on avait à juger, là, si... Disons que je te dis, d'ici la fermeture de la fenêtre de transfert, l'Impact est recherché, aucun joueur, 1 à 2 joueurs, 3 à 4 joueurs.
1 à 2 joueurs.
1 à 2 joueurs.
1 à 2 joueurs. Et je pense qu'au niveau des priorités de l'Impact de Montréal, il y a un poste d'attaquant numéro 9 et un poste de milieu de terrain relayeur. Personnellement, si on m'avait demandé, j'aurais ajouté par exemple un arrière latéral droit. Je trouve qu'on est un peu court. Michael Petrasso, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais
non.
Il est tout le temps. C'est dur. Quand on le voit, c'est dur. Donc ouais. On a Chris Duval, c'est pas mal tout. Il y a même un match où on avait envisagé de mettre Yukar Haitala arrière latéral droit.
Mais oui.
Écoute, c'est que là, clairement, on juge qu'on est un petit peu faible à cette position.
C'est vrai. Et Chris Duval avait sorti tout un match ce soir.
Ouais, c'est ça. Au dernier moment, au pied levé, il était venu. Mais écoute, je pense qu'il faut faire des priorités. C'est difficile d'aller chercher 3, 4, 5 joueurs pendant l'été avec la salariat, de la manière dont l'effectif a été conçu pendant la saison morte, c'est là le nerf de la guerre. Donc je m'attends à un attaquant et un milieu de terrain avant tout, parce que ça aussi, au milieu de terrain, on est faible. Samuel Piette, s'il se blesse, et qu'est-ce qui se passe?
Ah, alors c'est terminé.
Et voilà. Et Saphir Taider, pareil, s'il se blesse.
Exact. Non, c'est très mince.
On est court, on est court.
C'est très mince. Donc au moins au niveau de la profondeur, si on pouvait simplement s'améliorer. Vite, vite, ta surprise de l'année chez l'Impact jusqu'à maintenant?
Ça peut que être Ken Kroliki, j'ai envie de te dire, parce que c'est quand on parle de surprise, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu venir vraiment. Lui,
non.
On l'a pas vu venir. Alors lui, il était dans l'angle mort, mais complètement.
Ouais.
Et il est devenu, des propres mots de Rémy Garde, un membre important de cette équipe.
C'est
alors
vrai.
Personnellement, je pense que il est un membre important de l'équipe. Il peut l'être en profondeur, en relais, en cours de match. Le substitut de Samuel Piette, ils peuvent s'alterner les matchs parce que Samuel, il a besoin quand même de garder de la fraîcheur pour la fin de la saison. Il peut venir en numéro 8, mais on a quand même besoin d'avoir quelqu'un qui a aussi du métier. Et qui apporte un peu plus de technique et de créativité.
Et ta déception?
Ça peut que être au poste d'attaquant. Écoute, Matteo Mancosu, et là elle est double, hein, Matteo Mancosu, Anthony Jackson. Anthony Jackson, je te répète, Anthony, Jérémy, quand tu arrives au centre Nutrilet, en face de toi, tu as une gigantesque affiche pour Nutrilet. Il y a 4 visages dessus.
Ouais.
Evan Bush, Saphir Taider, mais surtout Samuel Piette et Anthony Jackson. C'est l'un des visages de cette équipe.
C'est vrai.
Il avait une place. Mais il ne l'a pas saisi cette année. C'est dur de confirmer. On ne lui a peut-être pas laissé autant de chance que ce qu'il aurait aimé. Reste que si tu fais les comptes, depuis le début de la saison, on a 2 attaquants qui, à eux deux, ont marqué 3 buts sur 24. Sur un ensemble de 24. C'est famélique. Alors, il ne faut pas s'étonner après qu'on aille chercher un autre attaquant.
Merci beaucoup, Vincent Destouches. Bon match ce soir au réseau TVA Sport et on se reparle demain.
Avec grand plaisir,
Jean. Merci. On s'arrête le temps d'une courte pause et au retour de ceci, nous allons parler d'athlétisme puisqu'au centre Claude Robillard, on avait un bel événement qui se tenait aujourd'hui. On reparle de tout ça dans quelques instants. Vous écoutez les amateurs de sport week-end sur une station Cogeco.